Eleven Insiders est de retour. On est là pour préfacer les playoffs, les Champions Playoffs, les Europe Playoffs avec la team d'Eleven, mais aussi avec deux Insiders. Jean Buté, le gardien de l'Antwerp, et Hugo Kuipers, l'attaquant de Malines, seront avec nous dans quelques instants. Et puis l'équipe d'Eleven, aujourd'hui, c'est Patrick Stein qui est là. Salut Pat.
Salut Jérémy.
Tout va bien?
Très bien, merci.
Il y a eu un peu de repos là avant les playoffs pour attaquer cette dernière ligne droite.
On ne se repose jamais vraiment, on prépare les nouveautés à venir pour les playoffs.
On sait que ça usine beaucoup hein, avec Patrick, réfléchir à tout pour vous offrir évidemment la meilleure offre possible. Thomas Châtel est là aussi, Flandroy.
Salut Thomas. Salut Thomas. Oui, Flandroy, j'aime bien changer, rentrer sur mon pied gauche, ça passe aussi.
Attention, on frappe de Thomas Châtel dans cet Eleven Insiders, on va évidemment parler des playoffs. Ce serait intéressant, il y a pas mal de choses à dire, on refera les points évidemment sur les classements aussi, mais avant cela, on ne change pas les bonnes habitudes que l'on avait prises depuis le début de la saison, c'est-à-dire l'échauffement. Il faut faire un bon échauffement, Thomas, avec la coupe. C'est un peu l'actualité, j'aimerais revenir là-dessus quelques instants. Thomas, rappelez aussi que vous l'aviez remporté en 2008, c'est ça?
Oui, face à Gand.
Avec le Sporting d'Anderlecht, face à Gand.
Mon ancienne équipe.
L'ancienne équipe, c'est vrai, vous êtes passé un peu partout aussi. Hein.
Partout, je dirais pas, mais...
J'ai des souvenirs de vous aussi du côté de Mons, un petit peu plus récent. Thomas, cette finale de coupe, beaucoup disent que le Sporting d'Anderlecht est un petit peu déçu, d'accord ou pas avec ça?
Oui, d'accord. Je pense que on savait qu'une des clés, ça allait être l'expérience de genre de match, de genre de moment. Et du côté de Gand, il y en avait plus d'expérience, en tout cas au niveau des titres. Hein. Et malgré l'absence de De Poitre qui est tombé en dernière minute, je trouve que dans la gestion de la finale, la gestion d'une finale, ça se joue pas comme un match normal. Hein. C'est quelque chose qui doit se gérer, qui doit s'apprendre. Et ça, c'est trop ressenti, je trouve, du côté d'Anderlecht. Et le joueur que j'attendais à ce niveau-là du côté d'Anderlecht n'a pas été à la hauteur. C'est Faïlov, évidemment, qui lui était un joueur qui avait connu ce genre de moment.
Pat, est-ce que tu as vibré devant cette finale?
Vibré, non. Sauf à la fin, parce qu'une séance de tir au but, c'est quand même, c'est quand même toujours prenant, même si on peut dire que c'est une loterie. Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Mais voilà, je n'ai pas vibré vraiment par le jeu proposé, même par la Gantoise, qui a pourtant, je pense, mérité d'aller chercher son trophée au final. Mais comme Thomas le disait, Anderlecht m'a beaucoup déçu sur cette rencontre-ci. Et peut-être qu'en fait, ils ont perdu le fait de pouvoir acquérir cette fameuse expérience en cours de saison, en se plantant aussi dans un match où il fallait gérer les émotions. C'était dans les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Je me dis que si Anderlecht avait fait un parcours, même Conference League, mais si cette jeune équipe dans sa construction avait pu faire un parcours avec encore plus de matchs importants durant sa saison, peut-être qu'il serait arrivé avec un autre état d'esprit, une autre façon de gérer la finale.
Et puis c'est aussi la finale
contre Vitesse Arnhem.
Ouais, contre Vitesse Arnhem. C'est aussi la finale d'un homme, hein, Davy Roof. Ouais.
Incroyable.
J'ai connu Anderlecht, qui est passé par Anderlecht. J'avais personnellement dit que il n'était pas spécialement blanc dans l'élimination de Gand en coupe face au PAOK. Et là, il est passé tout d'un coup du joueur un petit peu de seconde zone, comme second rôle qu'il a souvent et qui donnait comme image à un gardien qui a offert la coupe à Gand, et ça change tout dans une carrière. Ça peut être un déclic aussi pour ce garçon qui a souvent un caractère effacé, et je trouve ça chouette que des joueurs comme ça puissent aussi être les héros d'un match.
Ouais, bravo en tout cas à la Gantoise. Les play-offs 2, les Europe play-offs sont-ils déjà faussés? C'est une question à laquelle on répondra dans quelques instants, mais l'autre question par rapport au Sporting d'Anderlecht, Patrick, est-ce que finalement pour le Sporting c'est un vrai coup sur la tête et ça va leur permettre de rebondir pour les play-offs, ou au contraire, c'est un coup sur la tête qui va vraiment leur donner des difficultés supplémentaires pour les play-offs?
Ça, la réponse, on l'aura déjà un peu ce week-end. C'est très compliqué de se placer avant, évidemment, dans le discours de Vincent Kompany, et on a vu toute la communication aussi faite par Anderlecht sur ses réseaux sociaux, et je pense qu'il l'a très bien fait parce que son discours était vrai. Il a dit, voilà, directement, il faut passer à autre chose, utiliser le fameux cliché du match par match ou du défi par défi. On s'en moque souvent, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est ce que recommandent les psychologues du sport même, donc voilà. Il faut tourner la page, y aller. Est-ce qu'ils y arriveront? Comme je le dis, on aura un élément de réponse ce week-end, mais le dire avant, c'est trop compliqué.
Bon, on n'a pas d'infos pour cette finale de coupe parce que c'est toujours placé avant le début des play-offs. C'est quand même un peu embêtant. C'est pas la première année qu'on en parle. Si ça avait été placé après, on ne serait pas en train de discuter de play-offs un peu faussés ou pas.
Oui, mais on trouverait quand même un moyen de dire que c'est mal placé parce qu'il faut attendre la fin des play-offs et qu'une équipe aurait disputé des play-offs et serait fatiguée, ou une équipe aurait mis 2 mois à préparer ses play-offs si jamais c'était une équipe qui ne participait ni aux Europe ni aux Champions play-offs parce que le seigneur de la coupe peut le faire. Donc on aurait trouvé un moyen de dire que c'est mal foutu. Il y a toujours moyen de critiquer un calendrier parce que les calendriers sont trop chargés et qu'au final, il n'y a jamais de bonne solution. Je pense.
La fatigue avant ces play-offs, c'est un élément déterminant ou c'est la dernière ligne droite et le mental va permettre de tenir, Thomas?
Le mental fait beaucoup, mais il ne peut pas tout compenser. Et quand on est allé au-delà de ses limites pendant trop longtemps, ben, à un moment, on le paye. Et c'est évidemment le risque de certains joueurs, certaines équipes qui ont peut-être moins de ressources. Et là, c'est vrai qu'on peut se dire que Bruges est pas mal placé avec le noyau qu'ils ont, la façon dont ils ont pu aussi plus tourner, sans doute. Mais voilà, il y aura d'autres facteurs qui entreront en compte.
Jean Butte et Hugo Cuypers vont nous rejoindre dans quelques instants. On continue l'échauffement avec un autre fait d'actu, c'est le Standard qui est donc officiellement sous pavillon américain. Ça a été signé de manière officielle cette semaine et les premiers choix n'ont pas tardé. C'était un peu dans l'air quand même. Lucas Elsner n'est plus l'entraîneur. Est-ce une surprise ? Pas vraiment. Thomas, une réaction par rapport à ce qui se passe déjà du côté du Standard. On parle déjà aussi de Nicolas Storm, justement de Malines. Mais par contre, il n'y a pas encore de directeur financier, de directeur technique. Voilà.
Ouais, c'est ce qui fait toujours un petit peu peur, c'est qu'on fasse les choses dans le désordre. Et ici, ben, on a bien compris qu'il voulait vite marquer une rupture, sans même avoir décidé de qui serait le patron sportif de ce club. Je trouve ça toujours dommage. Parce que voilà, je trouve qu'il y avait aussi un bilan à faire, même si certains l'ont déjà fait pour les dirigeants du Standard et qui pourrait être en effet vite fait sur un bilan comptable. Mais je trouve que ça aurait quand même valu la peine que le futur patron sportif de ce club puisse faire le bilan aussi de Elsner et de peser le pour et le contre de continuer ou pas avec lui.
Pat, les choses à l'envers, qu'est-ce que cette situation t'inspire là pour l'instant ?
Oui, très surpris, non pas par la décision qui pouvait se comprendre vu le bilan en effet en termes de points de Elsner, mais le timing, ça je le comprends pas, je rejoins tout à fait Thomas. Même dans la transmission d'informations, maintenant on a viré un coach, mais si on l'avait gardé, nommé un directeur sportif, échanger un peu, voir si ça match, récolter des informations sur son noyau, qui a fait quoi, comment. Bon, il y a Will Steele qui est resté, qui pourra peut-être éventuellement jouer ce rôle-là, mais je trouve qu'on se prive d'une possibilité de reconstruire. Peut-être pas l'entièreté avec Elsner, mais au moins de savoir où on en est, de faire un état des lieux avec lui. Donc je suis surpris, est-ce qu'on est dans de la com, parce que voilà, on attend une première décision rapide des nouveaux propriétaires qui veulent marquer leur territoire très rapidement et que s'ils ne savent pas arriver avec des nouveautés, ils doivent d'abord envoyer un message aux supporters en disant il va y en avoir, parce que du coup maintenant on le sait, il va y avoir un nouveau coach. Voilà, je pense que ça fait partie certainement d'un élément.
La grande difficulté pour cette reprise, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Là où, par exemple, si on prend l'exemple de l'Union ou HL qui ont été aussi repris, ils étaient en D1B, on a le temps, on est dans l'ombre, on peut faire des choses, faire des petites erreurs, des tester. Ici, il n'y aura pas ce temps-là parce que c'est tellement un club qui est en vitrine et tellement haut niveau qu'on ne peut pas se permettre de se planter. C'est ça la grosse difficulté pour les repreneurs.
On va garder nos téléphones évidemment parce que ça peut aller très vite. Il y a des nouvelles qui pourraient encore tomber évidemment aujourd'hui vu comme c'est parti du côté du Standard où les joueurs terminent les entraînements avant d'être en vacances. Voilà pour cet échauffement. On entre dans le cœur du sujet. Honneur au Champions Playoff. Honneur à la course pour le titre.
Dennis Habibi, bro, you came a long way. Look, the last couple of years, the evolution you made.
Hey, Maske, het is hier met de mama, hè. Er komen een paar belangrijke wedstrijden aan.
Hey, lieve Yari, het is Zoe. Ik herinner mij nog goed hoe je mij vertelde dat het een droom was om naast de grote voetballers te mogen staan.
Hey, Raja, het is hier met Youssef van Landskap Salon. Ik wil je graag bedanken dat ik deel mag uitmaken van jouw team.
Just before you sail away to the seaside of Brighton, it's your time to shine, Habibi. So let's get it, man.
Je weet het wel, maar ik zeg het nog maar eens. Wij zijn fier op je.
Ik kan met alle trots zeggen dat jij dit het meeste verdient. Dus ga voor Yari, it's your time to shine.
Raja, nu it is your time to shine. Bye bye.
C'est le moment de briller, bravo à toute l'équipe marketing, aux jeunes talents qu'il y a chez Eleven Sport, parce que franchement, ça donne déjà des frissons, les playoffs n'ont même pas encore commencé, on a déjà envie que, voilà, que ça débute, donc c'est des beaux clips, il y en aura encore un très chouette tout à l'heure. Il paraît que Jean Butet est là, ce serait magnifique. Jean, Es-tu là?
Je suis bien là.
Tu es là, dans une,
bonjour à tous.
Dans une salle de cinéma. Salut Jean.
Yes, la petite salle de cinéma du club.
Il y a eu vidéo là pour préparer le match contre Bruges?
Non, pas encore, c'est demain.
Bon, comment ça se passe justement du côté de l'Antwerp? Ça fait une bonne dizaine de jours de repos là, non?
Ouais, ça fait un petit moment déjà qu'on n'a pas joué après notre dernier match de la phase classique. Donc ouais, ça fait du bien aussi un week-end off de temps en temps pour recharger un peu les batteries, voir un peu la famille, les amis. Et puis, attaquer les playoffs pleinement concentrés avec le maximum d'énergie.
Tu as regardé la coupe, la finale?
Non, je ne m'ai pas regardé. Non. Je voulais switcher complètement au football et j'ai vu quelques résumés, mais pas, j'ai même pas regardé. Non.
Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Jean Butet a remporté la coupe. La coupe de paddle, ça ne s'invente pas. Et on a la photo, regardez, avec son partenaire Dorian De Soleil. Mais c'est bien, vous avez vraiment coupé, Jean. Vous me disiez que vous étiez quand même assez doué. Bah, visiblement, vous êtes le meilleur du club, là.
Ouais, ça va, on a un beau duo avec Dorian. Une belle finale face à Radja et Davor Mathias, troisième gardien. Donc, on n'a pas perdu un match. On était sur un bon duo, une belle compréhension chacun. On ne se connaissait pas avant le match, avant le tournoi, mais ça a bien fonctionné. C'était un bon moyen de faire une activité hors foot en équipe. C'était franchement chouette.
Ça peut être intéressant pour les playoffs, hein, la bonne communication entre le gardien Jean Butet et son défenseur Dorian De Soleil. On verra dans les prochains matchs si c'est un effet. Jean, vous restez bien sûr avec nous, on va parler de ces playoffs, on va débuter avec le classement pour avoir une idée bien claire. L'Union est bien sûr en tête, les 3 points finalement sur tapis vert sont tombés, ça fait plus 3 sur le club de Bruges, ça fait plus 7 sur Anderlecht et l'Antwerp. Messieurs, ma question elle est simple, est-ce que ces 4 équipes-là peuvent encore jouer le titre? Sous question en fait, est-ce qu'Anderlecht et l'Antwerp qui sont à 7 points, vous les voyez peut-être aller chercher le titre patte?
Aujourd'hui, oui. Lundi,
peut-être plus.
Peut-être plus, je pense qu'elles abattent déjà des cartes très importantes ce week-end, Anderlecht et l'Antwerp.
Aujourd'hui, non. Lundi, peut-être.
Jean, du côté de l'Antwerp, alors j'imagine évidemment que le discours, c'est de jouer chaque match et de voir où on va arriver. Mais on sait que vous n'avez pas non plus la langue dans la poche, que vous êtes réaliste. C'est aussi pour ça qu'on aime bien vous avoir dans cette émission. L'objectif, là, elle est clairement, c'est lequel? Est-ce que 7 points, c'est déjà trop par rapport à l'Union?
En fait, on a eu une réunion ce matin. Voilà, concernant les objectifs, on en a aussi parlé la semaine dernière pendant notre semaine un peu plus calme. Mais en fait, pour nous, je pense que le match le plus important au final, il va être ce dimanche et va dépendre du reste de nos playoffs. Si on fait un résultat à Bruges, comme vous l'avez dit, lundi, on peut toujours y croire comme regarder pour la 3 et 4 si on perd à Bruges. Donc au final, tout dépendra de ce match de dimanche. C'est comme une finale pour nous. Certes, on peut parler de 6 finales, mais je pense que la plus importante, elle peut déjà être pour nous dimanche. Donc ouais, je pense que tout est dit maintenant. C'est à nous de faire ce qu'il faut dimanche sur le terrain. Et puis ça commence déjà en ce moment à l'entraînement. Donc voilà, on prépare comme il faut ce match. Ouais.
On sait que vous avez une fameuse direction du côté de l'Antwerp avec beaucoup d'ambition aussi. Le minimum qui est sorti de cette réunion, c'est quoi? C'est d'aller viser quand même peut-être la deuxième place? Oui, il y a ce premier match, on a compris, ça va influencer la suite. Mais on connaît les ambitions de votre direction, Jean. Ils ont dû dire quelque chose, ils ont dû vous stimuler. Il y a une carotte pour faire avancer l'âne, non?
Non, même pas. On est entre coach, staff et joueurs et c'est tout. On sait que voilà, on veut être champion et c'est l'envie de chaque joueur, du président, du directeur sportif, de notre staff et des joueurs. Mais voilà, faut être réaliste. C'est 7 points qui nous séparent entre l'Union et nous actuellement. Donc c'est pas une mince affaire. Maintenant, c'est franchement une phase bateau du foot, mais ce sera match après match et commencer par dimanche. Ouais.
Ouais, peut-être encore plus dans ces playoffs. Il y a 18 points à prendre, 7 de retard. On va parler un petit peu de l'Union qui est partie s'oxygéner du côté de l'Espagne. Apparemment, les retours qu'on a, c'est que c'était super bien. Les terrains n'ont jamais été aussi bons. Félix Chemazou était ravi. Messieurs, l'Union, est vraiment la proie que tout le monde chasse. Est-ce qu'ils vont parvenir à tenir là aussi? On me dirait lundi, on y verra un peu plus clair, mais j'aimerais bien qu'on se positionne déjà un petit peu plus maintenant.
Ce qui est sûr, c'est que c'était de plus en plus laborieux au fur et à mesure de la fin de saison pour eux, et qu'ils devaient aller chercher dans leur réserve, on le sentait, les victoires, les dernières victoires. Donc ça va être compliqué de toute façon avec un train qui arrive à pleine vitesse. On en parlera de Bruges et son 27 sur 27, c'est ça, c'est 9 matchs d'affilée. Donc voilà, il y a cette pression-là, physiquement et mentalement. Il faudra voir si ça tient le coup. Moi, je crois qu'il y a une énergie comme il n'y en a pas ailleurs, en termes de collectif, en termes d'âme à l'Union. Et ça, c'est leur grande force. On en a déjà parlé dans cette émission. Moi, je l'ai connu avec Genk à l'époque, où on a finalement échoué face à Anderlecht, qui était une équipe plus forte individuellement. Mais quand il y a cette âme-là, tout est possible.
Pat, l'Union, justement, quand on regarde les 4 derniers matchs à domicile, il n'y a pas de victoire, en fait. C'est hyper compliqué pour l'Union. Bon, il y a celle sur tapis vert, évidemment, contre le Bersot. Comment on peut expliquer cela?
Peut-être par le profil des adversaires, la façon d'être venu jouer de certains adversaires. Hein. C'était Ostende, Saint-Tron, Eupen. Voilà, des équipes maintenant, en théorie, qui ne devaient pas faire le jeu face à l'Union. Et on a dit depuis le début de la saison, à tort ou à raison, que l'Union avait peut-être parfois plus de mal, justement, dans les matchs où ils étaient favoris, que les matchs où ils pouvaient prendre la position de l'outsider et laisser le ballon à l'adversaire et miser sur la reconversion, l'organisation et les phases arrêtées. En Champions Playoff, ils vont se retrouver maintenant... En fait, ils vont reproduire ce qu'ils ont dû faire au mois de janvier, à un moment où on avait dit aussi, ça c'est un premier tournant de leur saison, ils les affrontent tous de suite, ils les avaient affrontés quasiment tous de suite aussi, on pouvait rajouter Genk dans le calendrier de l'Union, et ça s'était très bien passé pour eux. Alors ils vont certainement pas faire un copier-coller, ça ne va pas être un copier-coller, mais je pense que le contexte des matchs va peut-être redevenir plus favorable au style de jeu de l'Union sur ces playoffs.
On regarde un petit peu le bilan justement de l'Union face aux équipes du top 4, face à ces équipes justement qui joueront les playoffs. C'est 10 points sur 18. Contre Anderlecht, il y a eu 2 victoires et c'est d'ailleurs la dernière victoire à domicile de l'Union. C'était le 30 janvier. Le bilan contre Bruges, une défaite, un nul. On se souvient des circonstances. La défaite, ils n'auraient pas mérité de perdre. Le nul, ils auraient mérité de gagner. Et puis contre l'Antwerp, ça va intéresser Jean qui est toujours avec nous. Une défaite du côté du stade Marienne et une victoire pour l'Union. C'était une masterclass, hein, ça vraiment, de l'Union. Vous avez appris, Jean, vous avez encore reparlé de ce match où vous avez vraiment été, excusez de l'expression, mais baladé à la maison contre les Saint-Gillois.
Ouais, on n'en a pas trop reparlé. Après ça, je pense que c'était une belle performance de l'Union et il y avait encore pas mal de matchs à jouer avant la fin de la phase régulière. Donc, on n'est pas revenu sur ce match encore. On va y revenir pour préparer cette équipe. Mais c'est vrai que là-bas aussi, on ne mérite pas forcément de gagner. On gagne 2-1 chez eux. Donc, au final, c'est deux performances qui pour moi sont révélatrices aussi de la force de l'Union et de la qualité de ce groupe. Donc c'est vrai que cette double confrontation va être intéressante et je pense qu'on devra apprendre à analyser de ce qu'on a fait durant la phase classique et s'adapter face à une équipe qui fait pas forcément le jeu et peut-être changer de style de jeu chez nous.
Dans un instant, les questions de la Team Eleven pour l'Insider. Avant cela, Jean, un petit prono pour justement ce match entre l'Union et Anderlecht. Tu vois qui là, dans ce match-là émerger?
Bon, je vois quand même l'Union. Ouais. Je vois quand même l'Union l'emporter.
Allez, c'est noté. On verra évidemment si c'est juste ou non lundi. Hein, du coup, ouais. Ce sera un jour important, hein, lundi.
Oui, c'est vrai. Mais tu parlais de ce match que je commentais, l'Inter Union, qui était pour moi un des matchs références de cette Union-là. Mais ça a montré aussi à quel point l'Antwerp a rarement maîtrisé son sujet, en fait, cette saison. C'est aussi le pendant de ce match. Et c'est, bon, voilà, ils ont eu le mérite dans le réalisme d'être présents. Mais c'est vrai que dans la maîtrise de son sujet, ça a été beaucoup plus compliqué.
7 points sur 9, on le rappelle, face à ces équipes des play-offs pour l'Union en déplacement. Pat, est-ce qu'il y a une petite question qui traîne pour Jean Buté? C'est le moment. Il est là avant de partir. Son film va bientôt commencer.
Allez. Bah écoutez, Jean, moi, je pense que vous êtes tué l'homme de la saison du côté de l'Antwerp, tout simplement. Mais est-ce que c'est normal pour un club comme l'Antwerp que son homme de la saison soit son gardien de but?
C'est pas une question évidente. Je te remercie pour les compliments. Après, c'est sûr que c'est pas forcément révélateur d'une bonne saison chez nous. On a Michael Frey qui fait une très bonne saison aussi, qui pourrait être l'homme de la saison. Donc, je pense que c'est sûr qu'on a, par rapport au début de saison, bien évolué. On a quand même eu un effectif qui a énormément changé et ça a dû aussi jouer dans tout ça, dans le fait de concéder beaucoup plus d'occasions à un système qui n'était pas forcément en place dès le début et des joueurs qui se sont peut-être un peu cherchés aussi tout au long de la saison. Donc voilà, on espère que ces play-offs vont nous permettre de tous être à un niveau auquel voilà, le président attend et auquel les supporters ont les attentes. Et j'espère qu'on pourra tous avoir notre plus haut niveau pendant ces play-offs et pour pouvoir se rivaliser avec tout le monde et puis dès dimanche contre Bruges. Ouais.
Bon, en attendant, il y a un impact direct, Jean. Tu as beaucoup de boulot, on a beaucoup parlé de toi. Patrick n'est pas le seul, en tout cas, à penser que tu es l'homme de la saison. Transfermarkt, boum, la cote, 4 millions d'euros pour l'instant, ta valeur marchande. Tu auras bientôt 27 ans. Petite question, tu es au sommet de ta carrière. Tu te sens là, au sommet de ta carrière ou pas? Ou tu peux encore aller plus loin?
Ah, j'ai que 27 ans, donc je dirais que je ne suis pas encore au sommet. Et au sommet, ça sera peut-être dans 1, 2, 3 ans, on ne sait pas. Et je peux pas le savoir, même si c'est sûr que c'est une superbe saison pour moi. Et ouais, c'est pour l'instant la meilleure saison de ma carrière, la plus pleine en termes de nombre de matchs, en termes de régularité. Donc ouais, c'est sûr que pour l'instant, c'est un sommet. Après, il y a peut-être encore un plus haut sommet qui m'attend. Donc je m'arrêterai certainement pas là. Hein.
C'est l'heure de la toute dernière question avant de laisser filer Jean Buté.
Ouais, Jean, dans ce contexte où on constate qu'il y a quand même peu de sérénité autour du club, on a parlé de la direction, de l'arrivée d'Overmars, du président. À quel point a manqué un garçon comme Faris Haroun cette année, qui, on le sait, a eu des soucis physiques et qui est un leader emblématique dans le club et dans cette équipe?
Ouais, je pense que au début de la saison, il manquait certainement ce leader au milieu qui harangue tout le monde, l'arbitre et les joueurs. C'est vrai que ça a certainement manqué. L'arrivée de Radja a amené un peu ce côté compétiteur, un peu harangueur et il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, c'est vrai que Faris a à la fois sur le terrain en tant que footballeur, amène on va dire des kilomètres et ce qui est pas négligeable au milieu. Donc c'est vrai qu'un joueur comme Faris aurait pu nous manquer cette saison, mais aujourd'hui le coach a fait des choix et c'est comme ça. J'ai pas à commenter ça, même si c'est vrai que les fois où il est rentré en jeu, où il a été titulaire, c'est qu'il a été très intéressant à la fois avec le ballon et dans son leadership. Donc il a toujours été présent et été très pro à l'entraînement et le jour de match avec nous. Donc il nous a aussi beaucoup aidé dans ce sens-là et il va continuer à le faire pendant les playoffs avec notamment des joueurs suspendus au milieu.
Merci Jean d'avoir pris le temps en tout cas d'être avec nous dans cette émission. On sait que ce n'est pas toujours facile d'avoir les joueurs entre les repas, la séance muscu, le repos. Mais il n'y a jamais un refus quand on t'appelle. Merci beaucoup en tout cas et bon play-off.
Bon play-off. Ouais, merci. Bon play-off à vous, avec plaisir.
On regardera évidemment cette rencontre avec beaucoup d'attention. Ce sera dimanche à 13h30, si ma mémoire est bonne, ce fameux Bruges-Antwerp. Oui, ouais. Eleven Pro League 1, avec toute l'équipe. On sort les grands moyens, bien sûr. Bruges, j'ai envie qu'on parle un petit peu de Bruges. Est-ce que Bruges est le candidat numéro 1 pour le titre? On dit que Bruges est serein, il y a une belle série pour l'instant. Ils sont tellement sereins qu'ils sont déjà en train de préparer la saison suivante, avec Björn Meijer, le Néerlandais qui est arrivé. Candidat numéro 1 au titre? Devant non. L'Union ou pas?
Non, non, je pense que l'Union reste le candidat numéro un. Mais Bruges, dans cette situation d'outsider, est très dangereux. Est très dangereux parce qu'ils ont eu le temps de reconstruire maintenant quelque chose de très solide. Parce qu'ils ont un noyau comme personne d'autre, comme aucun autre club en Belgique. Et que Schröder a trouvé ce fameux équilibre qui a mis du temps. Hein, et au début, Dieu sait si dans ces tests, c'était compliqué. Et en même temps, voilà, sur le plan comptable, c'est impressionnant. Mais pour avoir aussi suivi Bruges deux, trois fois et les avoir commentés, c'est pas toujours non plus au niveau de la fluidité parfait.
Ouais, c'était chaud hein, au début avec Schröder, pas mal critiqué. Va-t-il rester la saison prochaine? Vous allez me dire, ouais, mais là, tu vas déjà un petit peu trop loin. On va déjà essayer de voir cette première journée de play-off. Mais c'est parce qu'évidemment, il est cité à l'Ajax où Ten Hag, lui, c'est officiel, rejoint Manchester United, donc ça pourrait bouger à ce niveau-là. On sait qu'il connaît bien l'Ajax pour y avoir été T2.
Oui, pas et surtout qu'à un moment, à Bruges, on était avant la Super Série. Je crois que la direction avait peut-être fait trop vite le point, mais était quasiment persuadé d'avoir fait une erreur de casting avec Schröder, où il a pris certaines décisions. Point d'ailleurs de comparaison avec Philippe Clément, et ce qui lui est arrivé du côté de Monaco aussi, où on l'a annoncé viré en fin de saison à un moment par la direction de Monaco. Et maintenant, ouais, il enchaîne les bons résultats. Mais donc, pour en revenir à Schröder, il a mis une dynamique en place avec des matchs abordables que Bruges devait gagner. Là, on peut inverser aussi la situation. Maintenant, Bruges va jouer des matchs au sommet contre des adversaires quand même qui peuvent convenir peut-être de l'Union, mais je pense que Bruges aurait été plus embêté de voir Gand en play-off qu'Anderlecht ou Lanterre. Donc Bruges
seule
a quand
équipe.
Même de quoi vraiment embêter l'Union, et même lors de la première journée, mais Bruges joue avant l'Union.
C'est vrai,
c'est déjà moyen de revenir à égalité de points et de les mettre sous pression aussi.
Au-delà de ça, plus que jamais, une énorme différence de philosophie entre l'Union. On a parlé de ce jeu qui avait besoin d'espace, et Bruges, plus encore que sous Clément, qui veut le ballon, qui veut cette possession. Je ferai une petite comparaison entre ce qui peut se passer en Premier League. Je sais que Patrick est un grand fan de Liverpool, mais on a un Liverpool qui aime repartir en transition rapide et avec des joueurs rapides, et un City qui adore avoir le ballon et camper autour des 16 mètres adverses. Voilà, petite comparaison, mais là aussi, ça se jouera entre ces deux philosophies-là.
Vous teasez, en fait, la lutte pour le titre en Première Ligue, mon cher Thomas.
Pas vraiment, c'était pas réfléchi.
Le beau football, et ça, c'est bien vrai. Gand, qui est la seule équipe en 2022 à avoir battu le club de Bruges, d'ailleurs. Il y avait le championnat, il y avait la coupe aussi, on ne l'oublie pas. Et puis, petite statistique intéressante, c'est que le club de Bruges est invaincu contre les trois autres équipes qui participeront au Champions Playoff. Et c'est un adjuvant mental qui pourrait peut-être avoir là aussi son importance, en attendant de voir ce qu'il adviendra de ce bon Alfred Schröder. Le Sporting d'Anderlecht, on a parlé de tout à l'heure, coup de fouet ou pas cette défaite en coupe. Je ne sais plus, Thomas, si vous vous étiez épanché sur cette question. Je pense que Pat y avait répondu par rapport à Anderlecht. Est-ce que justement cette défaite pourrait les remobiliser, ou vous avez été joueur, ça pourrait être difficile de s'en remettre?
Mais je crois qu'elle sera moins un coup de bambou sur la tête que ça n'aurait été un coup de boost s'il l'avait remporté. Voilà, je pense vraiment que le coup de boost aurait été pour le coup très très important, à mon avis. Ça aurait libéré les joueurs. Et le problème, c'est qu'on l'a dit, ce match de coupe, ils l'ont mal géré. Et maintenant, ça ne va être que des finales de coupe.
Plus de pression,
et
du
ça
coup.
Ça ne donne pas de bons signaux, à la fois pour eux, mais pour leurs adversaires.
Parce que la saison 45... aurait pu être réussie avec une victoire.
Il faut oublier leurs 45 premières minutes à Courtrai, ce qui était déjà c'est une vrai. Finale à distance. Et il ne faut pas oublier aussi, parce qu'on ne l'a pas encore dit, que la victoire de Gand, ça entraîne un enjeu encore supplémentaire dans ce Champions Playoff, c'est que toutes les équipes ne sont pas forcément qualifiées pour la Coupe d'Europe. Hein. Les quatrièmes, c'est un barrage qui les attend encore. Donc encore un match à enjeu, couperet, qui jouera sur une rencontre. Donc il y a moins de filets de sécurité, comme en comparaison avec l'année dernière, où on savait bien que les quatre équipes des Champions Playoff avaient déjà leur ticket européen garanti. Ce ne sera pas le cas.
En tout cas, là, aussi bien pour la finale de coupe, ils n'avaient pas de précédent, ou la plupart. Là, ils ont la saison passée, où ils se sont un petit peu plantés pour construire quelque chose maintenant de plus fort.
On verra ce que ça donnera, naturellement. On aura hâte. C'est à 18h30 dimanche, ce match entre l'Union et le Sporting d'Anderlecht. Petit classement préparé avec toute l'équipe et avec Thomas van der Linden qui usine pour se rendre compte que mais voici les points pris par les équipes des Champions Playoff face aux équipes des Champions Playoff. L'Union, le club de Bruges, avec 10 sur 18. L'Antwerp est à 7. Anderlecht est à 5. C'est là aussi... C'est un peu pour ça que je voulais vous diffuser ce classement là maintenant. Anderlecht contre les équipes du top 4. Une seule victoire. Va falloir essayer de changer cette dynamique là.
Ça va être compliqué.
Compliqué ? Vous les voyez terminer où et faire quelle série ? J'entendais compliqué, pas simple.
Oui, pas simple, et surtout parce que des joueurs blessés, des joueurs fatigués aussi. Chimerou, Gomez, ça siffle encore visiblement au niveau, au niveau des muscles. Donc, c'est peut-être l'équipe qui va arriver avec le plus de joueurs blessés sur ces playoffs.
Ouais. Et finalement, là où j'ai été le plus déçu dans cette finale, et ils doivent une belle revanche pour ces playoffs, c'est le duo d'attaquants dont on attend énormément dans ce 4-4-2, qui est complémentaire, qu'on a connu complémentaire durant la phase classique. Et là, ils n'ont pas pesé du tout sur cette finale. Et ça va dépendre aussi de ces deux-là.
Allez, on verra pour cette Champions Playoff. Dans un instant, on parle Europe Playoff avec Hugo Kuyper. Juste encore vous parler de l'Antwerp pour vous dire qu'il y avait un bon petit papier là dans la DH du jour par rapport au G5. C'est vrai que l'Antwerp va intégrer le G5 à l'issue de cette saison et va éjecter d'une certaine manière aussi le Standard. Ça peut avoir des conséquences assez importantes. La DH en parlait ce matin, près de 4 millions de différences parce qu'il y a des droits commerciaux, il y a des droits de télé là-dedans notamment. Puis il y a plus de pouvoir quand vous devez prendre des décisions par rapport aux autres clubs de la Ligue. Donc voilà, ça c'est un changement dont on commence à parler, mais le Standard, ça confirme aussi que ces dernières saisons sont un petit peu plus compliquées, puisque pour intégrer le G5, on prend les résultats des 5 dernières saisons, si ma mémoire est bonne. Voilà pour ce petit trait d'actu, on passe aux Europe Playoffs, et là aussi on a un chouette petit clip à vous proposer, regardez tout ça.
Hallo Tarek, hier hou je grote broer Mohamed Tisoudali. Ik weet wat je allemaal hebt moeten opofferen om je doel te moeten bereiken.
Yo Joris, c'est Ryan. Ah, que dire de toi, frérot? Que dire de toi, mon frère?
Hallo Rob, hier opa in Sint-Truiden. Beetje verwonderd? Je weet toch dat ze opa voor alles gebruiken.
Hello, Junya. Junya がベルギーの元気で初めの一歩を踏み出した時からお世話になっている共同通信のエルスです。
Blijf zo doorgaan. Je hele familie is super trots op jou.
C'est ton moment pour briller maintenant. Ne t'arrête plus jamais, frère.
Het is niet tijd om te schitteren. Manneke, we zijn fier op je. Succes, zo dikwijls al gezegd.
あなたの才能を見せつけることができると思います。
On ne le répétera jamais assez, franchement, grande qualité là, dans cette production. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour que cela soit possible. Et tip-top, Hugo Kuypers est là. C'est pas vrai, mais c'est le timing.
Bonjour.
Salut Hugo, tu vas bien ?
Bonjour. Oui, ça va et vous ?
Très très bien. On est dans quel état d'esprit ? On est serein, on est impatient, on est un petit peu inquiet avant le début des Europe Playoffs là ?
Non, assez serein et moi personnellement impatient, oui, hâte d'y être.
Bon, impatient d'encore marquer des buts parce que là, pour l'instant, ces dernières semaines, et j'ai même envie de dire cette saison, c'est plutôt pas mal là ce qui se passe.
Oui, clairement, on va essayer de rester dans la continuité de ce que j'ai pu faire cette saison, mais surtout collectivement, continuer à produire notre jeu et essayer d'avoir des résultats.
Hugo, tu restes évidemment avec nous. On va regarder le classement de ces Europe Playoffs parce qu'on va en discuter et ça pourrait avoir son importance. Gand est en tête avec 31 points pour les Gantois. C'est 4 de plus que le Sporting de Charleroi. C'est 5 de plus que Genk et que Malines. Ma question, mais tiens, je la pose à Hugo pour commencer. Est-ce que ces Europe Playoffs sont déjà un petit peu faussés après la victoire de la Gantoise en Coupe ? Ou alors, est-ce que c'est une bonne affaire pour vous?
L'avenir nous le dira, mais personnellement, je pense que Gand est assez professionnel et reste compétiteur. Donc, une fois, peut-être que maintenant, ils vont aborder les playoffs de façon plus sereine. Mais une fois sur le terrain, peu importe le 11 de base qui jouera, ils seront là pour faire bonne figure.
Bah, ça pourrait faire vos affaires. Vous êtes à 5 points des Gantois. Hugo, s'il lève un tout petit peu le pied, façon de parler, ça pourrait être bien pour vous. C'est quoi l'objectif de Maline?
On va clairement essayer d'accrocher cette cinquième place, mais voilà, il y a ce petit retard de 5 points qu'on va essayer de combler au plus vite et essayer de jouer les troubles faits jusqu'au bout.
Pourquoi on ne rediviserait pas encore les points par deux? Patrick, la Gantoise qui gagne la coupe, est-ce que ça... Allez, on va le dire comme ça, est-ce que ça fausse un peu la compétition ou pas?
Ouais, ça dépend, comme Hugo le disait, surtout comment la Gantoise, du coup, avec ce succès, va aborder ses playoffs, s'ils ont envie de les jouer à fond, si Yvan Vanhazebrouck a déjà envie de préparer la saison prochaine aussi, quitte à ripolliner son équipe de temps en temps, une fois ou l'autre. Il faudra voir, et les premiers matchs nous donneront certainement les réponses à ce niveau-là.
Petit message à la régie, on entend fort le retour d'Hugo Kuyper. Si on peut peut-être juste couper ce son pour que tout le monde s'entende parfaitement, ce serait parfait. Thomas, la question est la même.
Ben, je vais donner un bête exemple. S'il laissait au repos, ce qui serait totalement probable, un garçon comme Ojija qui est sorti avec blessure de la finale, ça aurait un énorme effet. On a vu un Gand avec et sans Ojija, non seulement en finale, mais en fin de saison aussi. Ce n'est pas la même équipe. Là où ils auraient sans doute fait tout pour retaper Ojija, ici, ils vont prendre zéro risque par rapport à des garçons comme lui. Même chose pour De Poitre, même chose pour d'autres. Donc, oui, ça aura un effet, mais je ne mets pas en doute la qualité du noyau de Gand. Je ne mets pas en doute le fait qu'ils vont aller tenter d'aller jusqu'au bout pour aller devant, mais c'est complètement différent. Ça, il n'y a rien à faire au niveau de la pression qu'on se met soi-même en tant que coach, en tant que joueur.
On rappelle quand même que si on parle d'éventuellement fausser la compétition, c'est parce que la Gantoise, grâce à sa victoire en Coupe de Belgique, ne peut pas aller chercher un meilleur ticket européen que ce barrage d'Europa League qui lui a donné, qu'ils ont été chercher avec ce ticket de la finale. Charleroi-Malines samedi comme premier match et Gand-Genk comme première rencontre aussi. Mais qu'attendre finalement, Pat, d'un Sporting de Charleroi aussi dans ces Europe Playoffs?
Je crois que c'est Malines, Charleroi.
Qu'ai-je dit?
Charleroi-Malines.
Eh bien, ce sera Malines-Charleroi. Voilà. Merci pour la rectification.
Pas de souci. Charleroi, je pense qu'il y a un objectif à jouer. On voit aussi toute la campagne de com' du club qui s'est mis en route, où ils veulent remplir le stade. Il y aura des belles affiches pour les Carolos. Et donc, il y a une opération séduction à faire. Et pour connaître un petit peu le public Carolo à faire, pour que l'opération séduction, elle marche, il faut du spectacle sur le terrain, mais il faut des résultats aussi du côté de Charleroi et des victoires face à des adversaires probants. Et c'est le cas dans ces Europe Playoffs. Donc le défi, il sera là. Pourquoi pas écrire une belle histoire? Ils ont 6 matchs pour le faire. Ils ont les moyens pour le faire aussi, même s'ils n'ont pas toujours brillé non plus dans les matchs couperets cette saison pour eux du côté des Zèbres. Donc ce sera un beau défi à avoir.
8 sur 18 pour Charleroi contre les équipes de ces Europe Playoffs. Thomas, plutôt... Voilà, comment on se positionne par rapport au sport?
C'est l'occasion idéale pour Edouard Steele de faire en sorte que la greffe prenne définitivement. Parce qu'on ne peut pas dire que la greffe est prise complètement...
C'était un peu irrégulier.
Ça a été trop irrégulier. Au niveau du contenu, bah, évidemment, après le départ de Nicholson, ça a été compliqué de retrouver un équilibre. Et donc, voilà, c'est à Edouard Steele maintenant de montrer une continuité dans ses playoffs et montrer qu'ils sont capables d'aller chercher quelque chose. Et ce serait un signal fort par rapport au club et par rapport à l'avenir, parce que c'est important, c'était un pari de faire venir un garçon comme Edouard Steele qui a de très bonnes idées, qui est quelqu'un qui est un coach moderne, mais qui, comme tout coach, va devoir faire des résultats, et avec l'objectif, Patrick en parlait, de remplir le futur nouveau stade en amenant du contenu en plus que les résultats. C'est très ambitieux, mais la direction Carolo l'est.
Parce que là, on parle de 20 000 personnes pour le futur stade. Hugo, le Sporting de Charleroi n'a pris qu'un point sur 6 contre vous cette saison. Ce premier match-là, il sera décisif, vous pensez, ou pas spécialement?
Décisif en partie, mais il sera très important, surtout à domicile, pour bien commencer. Charleroi est une équipe qui nous a assez bien réussi pendant la phase régulière, et même à domicile, on aurait dû empocher les 3 points, mais ils ont réussi à rectifier le tir en deuxième mi-temps. Ce sera à nous de faire un match sérieux et ouais, de faire plaisir à nos supporters comme on a l'habitude de le faire à la maison.
Il y a une ressemblance entre vous deux, entre ces deux équipes, c'est le fait que vous jouez souvent des matchs avec des mi-temps différentes, et on l'avait vu notamment à Malines, et je trouve que vous êtes deux équipes qui pouvaient montrer un super visage et beaucoup moins beau dans le même match, et ce serait intéressant de voir laquelle des deux équipes peut tenir son niveau le plus longtemps, ça c'est clair.
Hugo, par rapport à cela, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, notamment ces dernières semaines, où vous meniez au score, parfois même de deux buts, et où finalement ça ne se passait pas très très bien.
Absolument, c'est quelque chose sur lequel on travaille, cette continuité sur les 90 minutes, mais voilà, je pense que c'est déjà assez compliqué de mener autant souvent au score dans un match sur une saison, et nous on parvient à le faire, donc à nous d'être plus solide défensivement et parfois réussir à faire le dos rond, pas toujours vouloir mettre trop d'intensité ou voilà, c'est logique que pendant 90 minutes, il y a certaines périodes d'un match où on doit subir et passer cette passe.
13 buts, 8 passes décisives en 29 matchs pour Hugo cette saison. Il y a déjà eu des approches là pour le futur, Hugo ?
Pas dont moi j'ai été mis au courant du moins. Donc on verra bien à la fin des playoffs ce qui viendra, s'il y a un projet ou une offre concrète qui pourrait satisfaire toutes les parties. Mais pour l'instant, moi personnellement dans ma tête, ça n'a aucun intérêt de penser à un départ dans la mesure où je pourrais jouer de mauvais playoffs. Donc à moi d'abord d'être performant maintenant sur les 6 derniers matchs et puis on fera le point. Pardon.
Est-ce que Nicolas Storm est dans le même état d'esprit? Vous l'avez croisé parce qu'on parle beaucoup de lui du côté du Standard là, hein, pour l'instant.
Oui, mais Nico a déjà été dans la situation l'été dernier où il avait fait de très très bons playoffs et c'est un garçon qui a vraiment la tête sur les épaules. On l'avait vu avec sa présélection, lui, il n'a absolument pas été perturbé par ça et il n'y a aucun souci pour qu'il soit focus sur les playoffs.
On a parlé de Gand, de Charleroi, de Malines. Hugo, vous restez encore un petit peu avec nous. On va parler du Racing Genk aussi. Bah, j'ai presque envie de dire, s'il y a une équipe qui doit absolument remporter, bon, ils sont mal en point, hein, ils sont quand même assez loin au classement de départ, mais une équipe qui doit sauver sa saison, Thomas, c'est Genk. Et ils y sont allés tout juste dans ces playoffs.
Ils viennent de très loin. Ils viennent de très loin et ça a failli être la catastrophe là-bas de ne pas se qualifier pour ces playoffs 2, surtout face au rival Saint-Tron. Je ne dois pas vous faire un dessin sur la rivalité entre ces deux clubs. Ça gronde hein, là-bas à Genk. Je pense que s'il n'y a pas une victoire dans ces playoffs Europe, ça va être très compliqué pour Stork. Il n'a pas amené ce qu'on attendait. Il y a des choix qui ont été compliqués ces derniers temps dans les transferts aussi, là où on était habitué à faire de très bons choix. Mais surtout, on a perdu un petit peu l'essence même du club et son business model qui était de faire monter des jeunes du cru. Et ça, on en trouve, je trouve, pas plus assez dans l'équipe.
Les jeunes qui s'exportent bien, hein, puisque Van de Voort en 2024 sera du côté de Leipzig. Ça a déjà été
étonnant comme transfert.
Oui, c'est pas pour tout de suite, en plus.
Non, non seulement c'est pas pour tout de suite, mais voilà, je trouvais que c'était compliqué pour lui, ses débuts, et donc Leipzig, c'est quand même tout de suite le top de la Bundesliga.
On l'a quand même vendu comme le futur Thibaut Courtois, hein, il y a quelques années, Martin Van de Voort.
Ce qui aide à le vendre aussi, peut-être, à l'extérieur. Ouais.
Bon, par rapport à Genk, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le bilan face aux équipes des Europe Playoffs, c'est 7 points sur 18. Est-ce qu'on y croit ou pas pour Genk? Parce qu'il y a des raisons d'y croire.
Oui, parce qu'il y a du talent dans cette équipe, mais je serais quand même curieux de voir l'état d'esprit, tout simplement, de cette équipe, comme Thomas le disait, qui va être sous pression pour jouer quand même ce qui est pour eux un lot de consolation. Ce n'est pas des éléments très positifs, justement, alors que Malines est sur une excellente dynamique. À sa place, content d'être là, public enthousiaste, groupe enthousiaste à l'image de Hugo. Charleroi, on l'a dit aussi, il y a la volonté de bien faire, de séduire. C'est tout des modes dynamiques positives. Alors que Genk, on emploie les mots pression et sauver la saison. Ouais. Et c'est exactement leur cas. Donc il faudra voir s'il y a un premier accro dès le premier match, comment le groupe va réagir. On a vu que le groupe était quand même un peu instable aussi à ce niveau-là cette saison. Donc je serais curieux de voir ce que ça va donner.
Premier match à Genk qui a sauvé sa saison grâce à ses U21 champions et qui vont donc, c'est important de le préciser, jouer en division 1B la saison prochaine avec Anderlecht, avec plus que probablement, on s'est fait à 99% pour le club de Bruges et c'est quasiment fait aussi pour le Standard. Donc voilà, c'est une info importante puisque ça va modifier notre vie à partir de la saison prochaine, nous aussi.
Oui, 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 il suffit de voir l'exemple des jeunes brugeois pour savoir que c'est hyper important d'avoir son équipe espoir qui peut se frotter aux adultes et en D1B en l'occurrence. Là, ça donne un avantage et une avance pour les clubs qui vont pouvoir déjà suivre Bruges.
Excitant ou pas de savoir que ces quatre équipes-là, de jeunes dans lesquels il y a du talent, vont venir se greffer à la division 1B ?
Oui. Franchement, oui, je pense que ça va rendre cette division AB qui, voilà, on la regarde à la fin pour voir en fait qui va être champion, qui va monter, qui va faire le barrage. Et on suit un petit peu, selon les affinités, le cœur de la saison. Mais là, ça va nous donner des rendez-vous à Anderlecht standard U21. Ça va attirer l'attention, ça va, et comme Thomas le disait, donner de l'expérience aux jeunes. Donc non, c'est pour moi une bonne chose.
Allez, on va terminer avec Hugo aussi. Comment tu juges finalement ta saison ?
Moi, personnellement, je la juge assez satisfaisante parce que je trouve que je n'ai pas assez fait de matchs parfaits. Parfait, bon voilà, quel match parfait, mais de matchs où j'ai allié du contenu avec les statistiques. Les stats sont clairement bonnes, mais je vois ces playoffs un peu comme consécration personnelle où je peux mettre en place l'expérience que j'ai acquise sur la phase régulière.
C'est un beau discours, hein. Aussi on parlait de la motivation avec Pat, mais là ça transpire bien la motivation. Messieurs, est-ce que vous avez une petite question aussi à poser à Hugo avant de le laisser filer ? C'est le moment de vous manifester, vous avez un buzzer ? Thomas.
Mais peut-être par rapport à la naïveté du jeu de Malines. Pour moi, Malines, c'est un petit peu l'antithèse de l'Antwerp dont on a parlé tout à l'heure, qui a été très réaliste en proposant très peu de contenu. Malines a peut-être été l'équipe qui nous a proposé le plus beau contenu. Mais avec ce côté parfois joueur, naïf, qu'il faudra gommer. Je ne sais pas, Hugo, si vous en parlez, et quelle piste tu vois pour gommer cela ?
Non, bien sûr qu'on en a parlé, car voilà, cette fragilité défensive qui a pu, à juste titre, être notre faiblesse, ben, on va essayer de la combler en faisant le dos rond sur certaines parties du match où on subit, mais on en est conscient. Voilà, on va essayer de faire mieux pendant les playoffs.
Pat, ce sera presque le mot de la fin.
Oui, petite question, je vais quand même en revenir à tes stats qui sont excellentes, parce que tu es un des meilleurs rookie, on va dire, qui a fait sa première saison complète de Pro League avec une belle liste juste devant toi, c'est Zirkzee, Undav et Frey, donc les stats elles sont bonnes, mais justement toi qui as découvert au final notre Pro League sur les pelouses cette saison, tu penses quoi du niveau global du championnat ? Il t'a surpris positivement, négativement ?
Non, il m'a surpris positivement car, par rapport à ce que j'avais connu en France ou en Grèce, ici, le championnat est assez homogène et y a beaucoup de surprises qui peuvent se passer de week-end en week-end, là où dans le championnat grec, surtout, le championnat était pour les quatre gros. Mais voilà, chaque équipe a ses forces et tout le monde peut un peu ennuyer tout le monde. Et je pense avoir la chance, moi, personnellement, d'être dans une équipe où mon style de jeu correspond parfaitement à ce qu'on essaie de mettre en place et ce qui fait qu'on a un jeu aussi attrayant cette année.
Et on sent qu'il est épanoui. Merci en tout cas, Hugo, d'avoir été avec nous dans cet 11 Insiders. Bon début de play-off et bon match donc face au Sporting de Charleroi. Messieurs, on termine avec vous. Vous voyez qui en Division 1 la saison prochaine accompagner Westerlo, le RWDM ou bien Serein, Pat ?
Le RWDM.
Le RWDM ? Un point.
Oui, c'est ma sensation aussi quand on voit la saison de Serein qui s'est montrée à certains moments très, là aussi très joueuse avec de super talents, mais trop naïve et sans doute que le RWDM pourrait punir ça.
Premier élément de réponse, samedi 18h30, 11 Pro Ligue 1 avec RWDM Serein. Et puis une semaine plus tard, ce sera Serein RWDM. Match aller-retour. Donc, 11 Insiders revient jeudi prochain, on parlera encore de ces playoffs et puis lundi sera passé et du coup on pourra voir évidemment un petit peu plus clair dans tout cela. Merci beaucoup Patrick.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Thomas.
Ciao ciao.
Excellente fin de semaine à vous et à vous aussi qui nous regardez ou qui vous nous écoutez. Ciao ciao.